s'occuper de ça. Pendant une période définie, la somme de travail a été doublée, quadruplée. Et donc, la fatigue entre en jeu, s'installe parmi le peuple. Mais non seulement la fatigue, cette fatigue commence à tourner à un découragement généralisé. C'est une chose quand une personne, deux personnes sont fatiguées. Mais quand ces gens-là commencent à dire « Hey, on est crevés, nous autres. » Et là, la rumeur commence à se répandre. C'est le découragement en plus qui vient s'interposer. C'est le découragement qui commence à entrer en jeu en plus. Et comme si ce n'était pas assez, bien, il y a des ennemis qui deviennent de plus en plus menaçants. La possibilité d'une attaque subite, d'une attaque rapide, devient de plus en plus probable. Il y a des informateurs qui commencent à venir et qui commencent à dire, ils sont structurés, ils sont organisés, ils se sont cachés par-ci, par-là, ils sont organisés pour faire des frappes rapides. Vous n'aurez pas le temps de réagir. Et à plusieurs reprises, il y a des informateurs qui viennent leur dire, vous allez être surpris. Tout le projet que Néhémie avait sur son cœur est menacé par des obstacles qui se dressent sur sa route. Pourtant, Néhémie a ça à cœur. Néhémie a sur son cœur de revoir la beauté de la ville de son peuple, de revoir la gloire du témoignage de Dieu. Parce que pour lui, le nom de Dieu est sur cette ville-là. Comme pour moi, le nom de Dieu est sur ma famille, sur mon cœur, sur l'église où je suis, sur le témoignage des chrétiens autour de moi. Néhémie a un beau projet. Il veut voir le nom de Dieu honoré en restaurant les murs. Il a un beau projet. Il veut prendre soin des gens qui sont là, qui sont livrés au pillage n'importe quand, à tout moment, sans sécurité. Il a ce projet sur son cœur et il est absolument convaincu à ce point-ci que son projet lui vient de Dieu. Non seulement il y a ça à cœur, il y a des choses qu'on a à cœur, des rêves qu'on a, mais il y a des choses où Dieu nous a convaincus que ça venait de lui. Non seulement Néhémie a ça à cœur, mais il est convaincu que c'est Dieu qui l'a placé sur son cœur. Et il ne va pas laisser des obstacles pousser à abandonner. Néhémie a encore des leçons très pratiques et très concrètes à nous enseigner. Est-ce que Dieu a placé sur ton cœur un projet spirituel? Et j'aimerais ça faire juste une parenthèse. Depuis le début de la série, je parle de projet spirituel parce qu'évidemment, si on parle de s'acheter peut-être un condo dans le sud pour les vacances, il y a sûrement moyen de placer ça, tu sais, puis de donner un cadre quelconque, c'est les vacances, puis on a besoin de repos. Peut-être, oui, je parle de choses peut-être plus spirituelles que ça. Mais en même temps, je ne suis pas en train de parler de choses qui sont comme toujours juste pour les pieux, puis les... j'ai des noms que je ne dirais pas qui me viennent en tête. Des fois, ça peut être très concret. Le projet spirituel de Néhémie, c'est construire des murs en roche. Ça ne peut pas être plus concret que ça. Il y avait même du concrete qui mettait en ça, je pense, d'accord? Ça ne peut pas être plus concret que ça, là. Alors c'est très, très, très physique, matériel et concret. Et pourtant, c'est un projet extrêmement spirituel. Parce que ce qu'il y a dans ce projet-là, c'est le témoignage, c'est le nom de Dieu restauré. Ce qu'il y a dans ça, c'est la protection du peuple de Dieu. Alors lorsque je parle de projet spirituel que Dieu a pu placer, de reconstruction spirituelle que Dieu a pu placer sur ton cœur, devant tes yeux, des ruines à reconstruire, ça peut être des choses concrètes comme faire du ménage dans mes finances personnelles, sortir des dettes, suivre un budget, me trouver une meilleure situation de travail pour voir aux besoins de ma famille. Ça peut être des choses comme ça, très, très, très concrètes. Comme ça peut être plus sur le plan des relations personnelles, de ma relation avec Dieu, d'accord? Est-ce que Dieu a placé un projet sur ton cœur? Puis t'as ruminé ça dans la prière, t'as apporté ça dans la prière. Il y avait ces ruines qui étaient là devant tes yeux et Dieu a fait cette impression sur ton cœur où il t'a dit, j'aimerais ça que tu bouges là-dessus, j'aimerais ça que toi, tu sois un agent de changement ici. Et t'as ruminé ça dans la prière, t'as amené ça dans la prière, t'as cherché la face de Dieu à un point tel où tu as été convaincu que c'était pas seulement quelque chose qu'il y avait sur ton cœur, mais c'est quelque chose que Dieu a placé sur ton cœur. Il y a un appel de Dieu pour que tu entreprennes une reconstruction. Mais voilà, c'est long. Ça prend du temps. Je l'ai dit au début de la série, c'est un des attraits pour moi du livre de Néhémie. C'est 13 ans d'histoire, le livre de Néhémie. Et lorsqu'on arrive à la fin, on voit très bien que la réforme n'est pas terminée. C'est ce que j'aime de Néhémie. Ça représente la réalité. Ça représente la vie telle que nous l'expérimentons. Alors, si Dieu a placé devant toi une vision, une reconstruction, un projet spirituel pour la gloire de son nom, que ce soit dans des relations, que ce soit dans ton cœur, que ce soit dans ta vie, dans tes finances, dans un ministère à construire, dans des gens à atteindre pour l'Évangile, peu importe, ça peut être extrêmement long. Et tu es convaincu que ça vient de Dieu, mais ça commence à être long. Et les obstacles surviennent. Et les obstacles peuvent devenir extrêmement décourageants. T'as donné le goût d'abandonner. T'as donné le goût de te relâcher. T'as donné le goût d'arrêter, de reculer. Regarde Néhémie ce matin. On va voir ensemble des leçons pratiques, mais si tu peux juste retenir ça ce matin. Moi, je te dis, regarde Néhémie et apprends de sa foi. N'abandonne pas. Si tu as la conviction que c'est un projet qui vient de Dieu, ton Dieu est avec toi. Regarde à lui. Renforce ta foi et continue. Dans quelques temps, peut-être quelques mois, peut-être quelques années, il va y avoir des chants d'allégresse sur tes lèvres. Parce que tu vas voir Dieu qui bénit ce projet-là. C'est lui qui l'a placé sur ton cœur. Des obstacles, il va y en avoir. D'apparence insurmontable. Tourne les regards vers Néhémie. Apprends de cet homme qui est un homme de foi, un homme concret et pratique. Et persévère. Fortifie ta foi. Bientôt, Dieu va placer des chants d'allégresse et de louange sur ton cœur, sur tes lèvres. Apprenons avec lui quelques leçons pratiques et concrètes. Je vous les résume en trois leçons, d'accord? Premièrement, faites face aux obstacles. Je vais juste les mentionner, les trois. Faites face aux obstacles. Rappelez-vous qui vous servez. Soyez un exemple. Faites face aux obstacles. Rappelez-vous qui vous servez, soyez un exemple. Néhémie est extraordinaire parce que c'est un homme lucide, c'est un homme qui ne nie pas la réalité. On le dit souvent, Néhémie est un gars qui est un homme spirituel et c'est un homme pratique. Bien, Néhémie ne nie pas la réalité. Il y a des obstacles qui sont là, ils sont bien réels et il ne gagnerait rien à nier la réalité, à fuir. Au contraire, il va les affronter. Quand Dieu place un projet sur ton cœur, il y a des obstacles qui surgissent. Nier la réalité, faire comme s'il n'était pas là, honnêtement, c'est stupide. Fuir la réalité, ce serait de la lâcheté. Affronte-les. Fais-y face. Imaginez un instant que Néhémie ne réagisse pas rapidement dans la situation. Vous comprenez des jeux de politique avec des gens qui étaient contre son projet, des gens qui étaient pour, des gens qui jouaient en coulisses. On va le voir plus loin dans Néhémie. Ça, il y en a eu tout le long du projet. Là, le problème est que la fatigue est réelle. Les gens sont fatigués et il y a une rumeur qui court. Tout le monde est fatigué. Imaginez un instant que Néhémie ne réagisse pas face à cela. Il y a une deuxième rumeur qui court. Nos ennemis sont prêts. Ils sont prêts. Néhémie nous dit, Juda disait, tout le monde est fatigué, nos ennemis disaient, on va les surprendre. Il y a deux rumeurs qui courent. Une qui est de ce que le peuple vit et l'autre, ce sont les ennemis qui le font courir. Nos ennemis disaient, les gens l'entendaient, ils sont prêts, ils vont nous surprendre. Qu'est-ce qui se passe si Néhémie ne nie ça et décide de se dire, non, ça va bien aller. Ne niez pas la réalité des obstacles qui sont devant vous. Ne les fuyez pas. Faites-y face. Deuxièmement, et là je vais choquer quelques oreilles, ne vous cachez pas derrière la foi et la prière. Passez à l'action. C'est un des aspects extraordinaires de Néhémie. Je le répète souvent, c'est un homme spirituel et sage. C'est un homme spirituel et pratique. Il est possible d'être très pratique dans l'action constamment et ne pas être spirituel. Et la folie de ça, évidemment, c'est qu'on essaie de tout faire par nos propres forces, ce qui est complètement insensé. Mais il est possible aussi d'avoir de l'air très spirituel, mais en réalité manquer complètement de sagesse. Et c'est ça la beauté de Néhémie. C'est que Néhémie savait quand il fallait prier, quand il fallait avoir foi, et il savait quand il fallait se lever et passer à l'action, en continuant à prier et en continuant à avoir foi. Alors, qu'est-ce que Néhémie fait dans le texte ici? La situation est réelle, les ennemis sont là. Néhémie va faire une démonstration de force, c'est ça qu'il fait. Il passe à l'action, il n'a pas dit « Ok, on s'en va tout au temple, on s'en va tous prier ». Pas à ce moment-ci, c'est pas ça qu'il a fait. Regardez le texte avec moi, verset 13. Ils sont informés. Néhémie a des informateurs qui viennent constamment dire « Ils sont là, ils sont là, ils sont là, les ennemis sont un peu partout. » Qu'est-ce que Néhémie décide de faire? Il arrête le travail pendant un instant, verset 13, il dit « C'est pourquoi je plaçais dans les enfoncements, derrière la muraille et sur des terrains secs, le peuple par famille, tous avec leur épée, leurs lances et leurs arcs. » Alors qu'est-ce qu'il fait? Il dit « Ok, pause, wow, stop, on s'arrête. Allez chercher vos armes, on sort dehors, toute la gang, tout le monde. » Et il s'en va dans tous les points forts, dans tous les points faibles de la muraille. Il rassemble les gens par famille puis il dit, vous vous tenez là, debout avec vos armes. Tout le monde, on arrête le travail, prenez vos armes. On prend position. Il n'est pas allé au temple pour prier à ce moment-là. Il n'a pas dit au peuple, OK, je publie un jeûne. Allez chercher vos épées, comment, toute la gang, on sort dehors. Ils veulent se battre, c'est correct, on va juste leur montrer qu'on est prêt à faire couler le sang. C'est ça qu'on va leur dire. Ils sont tous là avec les armes, les familles entières. Quand tu décides que tu vas aller prendre une ville par pure jalousie et que tu vois hommes, femmes et enfants sortir dehors armés, prêts à faire couler son sang pour sauver cette ville-là, tu y penses, hein? Tu y penses. Alors Néhémie, plutôt que se cacher seulement derrière la foi et la prière, fait un coup de force. Ils sortent avec les armes. Il leur dit, c'est correct, vous voulez prendre la ville, le sang va couler, le vôtre et le nôtre, mais le sang va couler. Et regardez bien la conclusion. C'est extraordinaire ce que le passage dit. Verset 14, « Je regardais, m'étant levé, je dis aux grands, aux magistrats et au reste du peuple, ne les craignez pas. Souvenez-vous du Seigneur grand et redoutable et combattez. » Pour vos frères, pour vos fils, vos familles, vos filles, je m'excuse, et pour vos femmes et vos maisons. Lorsque nos ennemis apprirent que nous étions avertis, Dieu anéantit leur projet. Lorsque Néhémie a arrêté le travail pendant quelques heures, fait sortir les familles dehors avec leurs armes, prêts pour le combat, l'ennemi a compris qu'il y avait des informateurs qui rendraient impossible une attaque rapide. Et Dieu s'est servi de ça pour détruire leurs projets dans leur cœur. Faites face aux obstacles. Ne niez pas la réalité. Ne fuyez pas. Affrontez les obstacles. Ne vous cachez pas derrière la foi et la prière. Passez à l'action. Je ne suis pas en train de dire de ne pas prier. Au contraire, priez. Mais passez à l'action. Passez à l'action. Soyez prêts à vous ajuster. À partir de ce moment-là, Néhémie change son plan de match, littéralement. Vous savez, des fois, on se lance dans une entreprise, on se lance dans un projet, on l'a baigné dans la prière, on a ça à cœur, et puis on décide qu'on avance coûte que coûte. Mais Néhémie, ce qui est important pour lui, c'était le résultat qu'il recherchait. Pas son nom, pas son processus, pas son plan de match, pas sa stratégie. C'est totalement secondaire. Néhémie prend une décision d'ajustement ici qui va doubler le temps de travail, littéralement. Il y a une partie des hommes qui vont être en train de faire la garde, armés jusqu'aux dents. Il y a une autre partie des hommes qui vont être en train de construire, armés jusqu'à la ceinture, avec l'épée, à la ceinture, en train de monter une muraille. C'était un canif Stay Sharp ou un canif suisse, là. C'était une épée. Tu essaies de construire une muraille avec une épée accrochée à ta ceinture. Mais Néhémie va s'ajuster. Et il fait plein d'ajustements. Tout le monde a des armes. Il y a un tour de garde qui est installé. Ses serviteurs personnels à lui sont armés jusqu'aux dents. Ils arrêtent complètement de travailler. Tout ce qu'ils font, c'est qu'ils sont postés à des coins stratégiques. Et donc, on voit le peuple qui est armé avec des armes de fortune. Mais on voit aussi une force d'élite qui est là, armée jusqu'aux dents, prêt à intervenir. Il y a un homme muni d'une trompette ou d'un cor qui est constamment à côté de lui, prêt à appeler tout le monde aux armes à tout moment. Néhémie est prêt à changer et à ajuster son plan pour atteindre l'objectif. Et parfois, par entêtement, par orgueil, par super spiritualité, on n'est pas prêt à faire les ajustements nécessaires. Mais qu'est-ce que vous cherchez? Néhémie n'était pas là pour son nom. Il était là pour la gloire de Dieu. Il était prêt à faire les ajustements nécessaires. Alors, faites face aux obstacles. Les nier, ce serait stupide. Les fuir, ce serait de la lâcheté. Faites-y face. Deuxièmement, rappelez-vous qui vous servez. Regardez ce que Néhémie leur dit au verset 14. « Je regardais, m'étant levé, je dis aux grands, aux magistrats et au reste du peuple, « Ne les craignez pas. Souvenez-vous du Seigneur grand et redoutable. Combattez pour vos frères, pour vos fils et vos filles, pour vos femmes et pour vos maisons. » Regardez un petit peu plus loin au verset... ça s'en vient. 20. « Au son de la trompette, rassemblez-vous auprès de nous, vers le lieu d'où vous l'entendrez sonner. Notre Dieu combattra pour nous. » Néhémie est en train de rappeler à Israël qu'ils ne sont pas en train de construire premièrement leur mur à eux, mais qu'il s'agit de la cause de Dieu. Et ce que Néhémie est en train de faire ici, dans la formule, lorsqu'il dit « Notre Dieu combattra pour nous », il est en train d'aller puiser dans les Écritures d'autres moments dans l'histoire d'Israël où Israël a appris la différence entre faire quelque chose pour toi ou faire quelque chose pour Dieu. Si tu le fais pour toi-même uniquement, Dieu va dire « Que Dieu te bénisse, mon ami. » Mais si tu le fais pour Dieu, il va dire « Moi, je vais te bénir, je vais t'accompagner. » Et lorsque Néhémie est en train de se servir de cette formule, « Votre Dieu combattra pour vous », est en train de faire référence à d'autres moments dans l'histoire. Dans le livre d'Exode 14:14, lorsque le peuple d'Israël sort d'Égypte et que l'armée de Pharaon commence à se lancer à sa poursuite, et là, ils commencent à chialer comme des bébés. Mais ils ont peur! Il y a une armée qui s'en vient pour les anéantir. Exode 14, à partir du verset 12, je vais juste vous lire rapidement. « N'est-ce pas là ce que nous te disions en Égypte? Laisse-nous servir les Égyptiens, car nous aimons mieux servir les Égyptiens que de mourir dans le désert. » Écoutez ce que Moïse a répondu au peuple à ce moment-là. « Moïse répondit au peuple, ne craignez rien. Restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ce jour. Car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. L'Éternel combattra pour vous et vous gardez le silence. » Néhémie est en train de dire à Israël, rappelez-vous qui vous servez dans ce projet-là. Est-ce que c'est premièrement notre projet à nous? Est-ce que c'est un projet purement égoïste qu'on a entrepris? Non, c'est une bataille pour le nom de Dieu. C'est une bataille pour la gloire de Dieu. Tout à l'heure, je vous ai demandé, est-ce que Dieu a placé sur votre cœur un projet spirituel? C'est une des raisons pour lesquelles tu veux que ton projet vienne de Dieu. Tu désires aller le valider dans la prière pour dire, « Seigneur, est-ce que c'est ton projet ou c'est encore un égo trip? Là? J'ai le goût d'avoir ci, j'ai le goût d'avoir ça, j'ai le goût de faire ci. » Non, tu veux le baigner dans la prière pour savoir que c'est un projet de Dieu. Parce qu'après, lorsque les obstacles surviennent, tu es capable de te rappeler que c'est Dieu qui l'a placé sur ton cœur. Tu as pris le temps de valider ça. Ça ne devient plus ta bataille à toi, premièrement. C'est la bataille de Dieu. Pas parce que je suis un Jesus freak puis que j'ai perdu la boule. Parce que je suis allé sonder les Écritures pour voir que ce projet-là est à sa gloire et est à son honneur. Je veux rétablir mon témoignage dans la famille. Je veux que mes enfants voient un foyer chrétien et tout est à reconstruire. Je veux rétablir la communion avec mon épouse et ça va être difficile parce que la communication est pourrie dans la maison. Je veux rétablir mes finances personnelles. Je veux rétablir mon témoignage au travail. Je veux construire un ministère. Je veux atteindre des âmes. Je pense à Bouffe pour tous. C'est tellement difficile par moment, tellement dur. Mais pourquoi vous vous êtes engagé dans ça? Pour votre intérêt personnel? Non. Je veux dire, écoutez, cette semaine, le camion de Mission Nouvelle Génération tombe en rack, comme on dit au Québec. La distribution de mercredi soir est annulée. Charity m'appelle, elle me laisse un message. Yannick, il faut prendre une décision, ils peuvent nous apporter ça, on va faire la livraison jeudi soir. Honnêtement, ces gens-là avaient autre chose à faire jeudi soir. Ils avaient une semaine à faire. Mais lorsque ces choses-là surviennent, ces obstacles-là surviennent, là, tu dis, souviens-toi. Souviens-toi qui t'es en train de servir. Pourquoi tu es en train de te donner comme ça dans cette cause-là? Pourquoi tu es en train de te dévouer comme ça? C'est pas pour ton nom. C'est pour le nom de Dieu. Parce que tu veux voir le témoignage de Dieu aller se placer dans ces cœurs-là. Parce qu'on va atteindre ces âmes qui ont besoin non seulement de nourriture, mais qui ont besoin du pain de vie. Amen. Rappelle-toi pourquoi tu es là-dedans. Tu es en train de servir dans un ministère. C'est décourageant, c'est lourd. Les gens ne sont pas là. Il y a des tensions. C'est difficile d'avancer. La vision n'est pas claire. Est-ce que c'est ton ministère? Rappelle-toi pourquoi tu t'es engagé là-dedans. C'est pour Dieu qu'on fait ça. On a été découragés par l'Église. Il n'y a personne ici qui est ici pour lui-même. Moi, le dimanche matin, si Christ n'était pas entré dans ma vie, je ne serais pas sorti de mon lit. C'est juste parce qu'il est entré dans ma vie que je sors de mon lit. Rappelle-toi qui tu es en train de servir. Et l'Éternel combattra pour vous. Dans Deutéronome 1,30, une autre allusion encore à cette même idée que parce que nous sommes engagés dans un combat pour Dieu, Dieu va nous accompagner. Je vous lis Deutéronome 1 à partir du verset 29. « Je vous dis, ne vous épouvantez pas et n'ayez pas peur d'eux. L'Éternel, votre Dieu, qui marche devant vous, combattra lui-même pour vous, selon tout ce qu'il a fait pour vous sous vos yeux en Égypte. Puis au désert, où tu as vu que l'Éternel, ton Dieu, t'a porté comme un homme porte son fils, pendant toute la route que vous avez faite jusqu'à votre arrivée en ce lieu. Malgré cela, vous n'êtes point confiance en l'Éternel, votre Dieu. » Israël se prépare à entrer. Il va falloir faire face aux adversaires. Vous n'êtes point confiance en l'Éternel, votre Dieu, qui allait devant vous sur la route pour vous chercher un lieu de campement. La nuit dans un feu, afin de vous montrer le chemin où vous deviez marcher, et le jour dans une nuée. L'Éternel entendit le bruit de vos paroles, il s'irrita et jura en disant, « Aucun des hommes de cette génération méchante ne verra le bon pays que j'ai juré de donner à vos pères, excepté Caleb, fils de Jéphuné. Il le verra lui, et je donnerai à lui et à ses enfants le pays sur lequel il a marché, parce qu'il a pleinement suivi la voie de l'Éternel. » Dans le passage de Deutéronome 1,30, Dieu nous donne de voir ce qui se produit lorsque nous oublions pour qui nous sommes engagés dans ce projet-là. Israël arrive aux portes. Il va y avoir des adversaires à combattre, c'est vrai. Mais plutôt que de se rappeler pourquoi ils se sont engagés là-dedans, c'est parce que Dieu les a conduits là-dedans, parce que c'est un projet de Dieu. Cette terre promise, ce n'est pas leur projet, c'est un projet que Dieu est venu placer devant eux. Dieu l'a donné à Moïse. Dieu a envoyé Moïse. Dieu leur a donné le projet. Tout ce qu'ils avaient à faire, c'est se rappeler que c'est le projet de Dieu pour avancer par la foi. Mais ils ont refusé de se confier en Dieu. Le projet est tombé à l'eau pour 40 ans. Cette reconstruction, parce qu'on allait construire un pays nouveau, à la gloire de Dieu, avec ta terre, ta maison, ta liberté, c'est tombé à l'eau parce que ces gens-là ont oublié qui ils servaient. Littéralement. Voilà ce qui peut arriver au milieu de ton projet. celui que Dieu a placé devant toi, lorsque les obstacles viennent, lorsque le découragement arrive, si tu oublies qui tu es en train de servir, ça se peut que tu recules et que le projet tombe à l'eau. Dieu t'a pas abandonné, Dieu n'a pas abandonné Israël. Mais quelles conséquences pathétiques. Ces choses-là nous sont données pour que nous apprenions à nous confier en Dieu et à avancer avec lui. Jésus-Christ nous a dit qu'il était avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Jésus-Christ combattra pour vous. Vous avez baigné ce projet-là devant Dieu dans la prière. C'est un projet qui vient de Dieu. Il y a des obstacles qui surviennent. Ne les niez pas, ne les fuyez pas. Faites-leur face. Rappelez-vous qui vous servez. Néhémie fait appel à un deuxième élément. Les gens qui sont là, qui sont en train de construire, sont en train de servir l'Éternel, c'est vrai. Mais ils sont aussi en train de servir leur fils, leur fille, leur épouse, leur maison. Et Néhémie leur dit, rappelez-vous, pensez à l'héritage que vous voulez donner à vos enfants. Est-ce que vous voulez qu'ils vivent misérables comme vous avez vécu? Est-ce que vous voulez qu'ils soient menacés constamment de pillage, qu'ils soient l'objet de la moquerie constante? Est-ce que c'est ça que vous voulez pour eux? Est-ce que vous voulez cet état de dévastation? Rappelez-vous pourquoi on a entrepris cela. Pensez à cet héritage que vous voulez donner. Mais moi, je vous dis la même chose ce matin. Le projet de reconstruction que Dieu a placé devant vous, vous l'avez entrepris pour la gloire de Dieu. Vous l'avez entrepris pour votre bonheur avec Dieu. Mais certainement, dans la vaste majorité des cas, vous l'avez aussi entrepris pour tous les regards qui sont sur vous. Que ce soit votre épouse, votre époux, que ce soit vos enfants, parce que vous voulez que vos enfants voient c'est quoi un foyer chrétien, parce que vous voulez que vos enfants voient c'est quoi un chrétien qui passe à travers les épreuves, qui construit avec Christ, parce que vous voulez que vos collègues de travail voient c'est quoi la foi chrétienne. Vous l'avez entrepris pour les regards qui sont sur vous aussi. Quand le découragement, les obstacles surviennent, rappelez-vous que vous servez Dieu et que vous êtes des serviteurs des hommes et des femmes autour de vous, que ce que vous êtes en train d'entreprendre est un témoignage pour édifier, pour construire. Si vous êtes engagé dans une construction d'un ministère, d'un service, d'un témoignage, c'est pour les âmes que vous êtes là. Vous êtes en train de servir des âmes qui ont besoin de vous voir placer votre foi en Dieu. Ces gens-là vous regardent. Ce sont vos témoins. Vous êtes en train de les servir. Vous servez Dieu, mais vous êtes en train de les servir aussi. Pensez à ces gens qui vous regardent, qui veulent vous voir achever la course, achever la construction, pour être bénis par ce que vous avez entrepris. Souvenez-vous qui vous servez. Et enfin, dernièrement, donnez l'exemple. Donnez l'exemple du prix qu'il y a à payer, des sacrifices qu'il y a à faire. Rappelez-vous toujours que c'est sur votre cœur que Dieu a placé ce projet-là. C'est à vous de souffrir le plus. C'est à vous de vous sacrifier le plus. C'est à vous de vous donner le plus. Parce qu'il y a peut-être des gens qui sont en train de vous accompagner dans ce projet-là. Et regardez avec moi la fin, justement, de ce chapitre, verset 23. Voici ce que Néhémie dit. Et tout au long de du livre de Néhémie, Néhémie va être ce chef qui inspire en étant un modèle, se sacrifiant toujours plus que les autres. Et nous ne quittions point nos vêtements, ni moi, ni mes frères, ni mes serviteurs, ni les hommes de garde qui me suivaient. Chacun n'avait que ses armes et de l'eau. Néhémie n'est pas au palais en train de manger ses gros festins. Il est constamment sur le champ de bataille, en train d'inspirer, en train de donner l'exemple. C'est sur votre cœur que Dieu l'a placé, ce projet-là. Vous êtes appelé à souffrir le plus. N'oubliez jamais ça. Ne vous tournez pas vers les gens autour de vous qui vous accompagnent dans le projet en disant « Oui, mais je pense que j'ai fait mon bout. » Tu auras fait ton bout quand le projet sera terminé. C'est toi que Dieu a suscité. C'est toi que Dieu a appelé. C'est sur ton cœur qu'il l'a placé. Tu auras fait ton bout quand le projet sera terminé. Comme Christ l'a fait pour nous. Comme Christ l'a fait pour nous. Il a eu son appel, il est allé jusqu'au bout. à la croix. Personne d'autre pouvait le faire. C'était son appel à lui. C'est lui qui devait le faire pour nous offrir le salut. Le projet que Dieu a placé sur ton cœur, c'est ton appel à toi. Porte-le jusqu'au bout, jusqu'à la fin. Et tu vas inspirer d'autres à avancer. Je suis en train de lire la biographie d'une jeune femme qui s'appelle Gianna Jessen. Peut-être que vous avez vu des vidéos qui circulent sur YouTube sur cette dame-là. Elle est née en 77. Elle a à peu près 34 ans aujourd'hui. C'est une histoire triste. C'est une histoire dure parce que cette femme-là, sa mère, à l'âge de 17 ans, était enceinte d'elle de 7 mois. Et elle a décidé de se faire avorter. Maintenant, moi, je suis en train de lire son histoire aujourd'hui. Parce que Gianna Jessen a survécu à son propre avortement. Alors que sa mère était enceinte de 7 mois, on lui a injecté une solution saline autour du fœtus pour pouvoir empoisonner le fœtus et pour pouvoir le tuer. Puis ensuite de ça, l'accouchement était provoqué 24 heures plus tard. Mais au moment de sa naissance, au moment de l'accouchement qui devait être un enfant mort-né, l'enfant était vivant. L'enfant était vivant. Alors le médecin qui a pratiqué son avortement a dû signer son acte de naissance. Maintenant, la souffrance de cette femme-là ne devait pas s'arrêter là, puisqu'évidemment, sa mère n'a pas changé d'idée pour autant. Et puis, elle a été placée. À cause de l'intervention, elle a subi une paralysie cérébrale. Et donc, elle restait avec des séquelles lourdes à la naissance. Sa mère adoptive, lorsqu'elle est allée la chercher, les médecins lui ont dit, elle ne s'assiera jamais, elle ne marchera jamais, elle ne se lèvera jamais debout. Mais le témoignage de la vie de cette femme-là est tellement inspirant parce que Dieu a placé sur son chemin des femmes qui l'ont aimée, qui ont pris soin d'elle, qui l'ont aidée à reconstruire sa musculation, à se développer. Aujourd'hui, elle marche. Non seulement elle marche, mais elle témoigne à la gloire de Dieu d'une manière extraordinaire. C'est vraiment, vraiment touchant d'entendre son témoignage devant des parlements. Elle parle de Jésus-Christ, son Sauveur, et elle lutte contre l'avortement. Lorsqu'on voit la vie d'une personne comme ça, avec tous les obstacles qui étaient devant elle, on est inspiré. On est inspiré à aller jusqu'au bout. Gianna Jessen connaît son appel. Son appel à elle, c'est d'être une survivante de l'Holocauste silencieux, comme elle l'appelle. Et de témoigner pour ses enfants qui ne verront jamais le jour, de se battre pour leur vie. Et elle le fait au nom de Jésus-Christ, parce qu'elle sait qu'elle est une fille de Dieu, non une fille de cette mère qui a voulu la tuer. Elle connaît son appel, elle persévère à travers les obstacles, et aujourd'hui elle a un témoignage glorieux. Frères et sœurs, je ne sais pas qu'est-ce que Dieu a placé devant vos yeux. Je ne sais pas quel projet il a placé sur votre cœur. Je ne sais pas quelles sont les ruines où Dieu veut reconstruire. Mais je peux vous l'annoncer tout de suite, il va y avoir des obstacles. Il va y avoir des moments de grande fatigue. Peut-être qu'aujourd'hui, tu es juste à mi-parcours. Tu regardes en arrière. Peut-être que c'est ta vie chrétienne, le projet que Dieu t'a aidé à voir et tu es à mi-parcours et tu dis, mais c'est tellement dur de construire un témoignage. C'est tellement dur. Regarde à Néhémie. Regarde à Gianna Jessen. Regarde à ces gens qui ont décidé de faire face aux obstacles. Les nier, ce serait stupide. Les fuir, ce serait de la lâcheté. Tu n'as pas le choix, tu dois faire face. Tu peux y faire face en te souvenant qui tu es en train de servir. Tu es en train de servir Jésus-Christ. Celui qui est allé à la croix pour toi et qui a vaincu la mort et le péché pour toi. Tu es en train de servir les gens qui te regardent, qui veulent être inspirés par ta persévérance dans cette reconstruction. Alors, sois un modèle. Sois un modèle de foi jusqu'au bout. On va prier ensemble. Seigneur Jésus, je veux te bénir pour Néhémie, pour Moïse, pour David. Je veux te bénir pour Gianna Jessen. Je veux te bénir, Seigneur, pour mes pères dans la foi ici. Je veux te bénir pour ma mère et mon beau-père qui sont ici dans la salle et qui persévèrent avec toi. Je veux te bénir, Seigneur, pour ceux qui ont établi cette Église en Jésus-Christ dans la saine doctrine, Seigneur. Je veux regarder à ces gens. Je veux regarder à ces gens pour apprendre d'eux la persévérance dans la foi, Seigneur. Je veux me rappeler tous les jours, Seigneur Jésus, que c'est pour toi que je le fais. C'est parce que sur mon cœur est tatoué le nom de Jésus-Christ, qui est allé à la croix, qui a complété le projet entièrement afin que la vie me soit offerte. Je veux me rappeler, Seigneur, des regards, des yeux qui sont fixés sur moi, qui veulent me voir persévérer avec foi. Ceux, Seigneur, que tu vas inspirer à travers moi, à travers ma persévérance, Seigneur. Je veux être un modèle pour eux. Je veux persévérer, Seigneur. Fortifie mes membres. Fortifie ma droite, Seigneur. Élève-toi, combat pour moi, Seigneur. Je vais avancer. Je vais faire face. Je te prie, Père, pour ceux qui peuvent être découragés, fatigué, Seigneur. Tu nous connais, tu as connu la fatigue, Seigneur Jésus. Tu as connu cet état d'épuisement. Tu as connu les doutes, Seigneur. Tu as connu les pourquoi. Tu as connu les y a-t-il un autre chemin à prendre. Tu as connu ces choses, Seigneur. Je te prie pour ceux qui sont découragés, qui sont fatigués ici ce matin, Seigneur. Je te prie d'étendre ta grâce sur leur cœur, qu'ils puissent réaliser que tout ceci nous est inspiré par toi. Inspiré par ta grâce, Seigneur, que nous allons trouver la force pour persévérer, pour aller jusqu'au bout en nous reposant dans ta grâce. Parce que vraiment, Seigneur, véritablement, tu es avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde et tout pouvoir t'a été confié. Oui, Seigneur, j'ai foi et je crois. Je crois que tu combattras pour moi jusqu'à la fin. Que tu me supporteras, que tu me tiendras, Seigneur. Viens bénir cette Église, garde-nous unis ensemble, unis derrière toi, Seigneur Jésus. Et que les gens qui sont autour de nous